flights from Orlando and Essex are located on the third floor.
Bouge dans ta tête, une émission proposée par Benjamin Stora. En direct sur France Culture et sur Beurre FM pour cette émission consacrée aujourd'hui aux jeunes des cités, le retour du social. Le débat sur la pétition des indigènes de la République, l'attention s'est brusquement portée sur les troubles identitaires, la mémoire coloniale douloureuse, comme cause essentielle des difficultés rencontrées par les jeunes issus des immigrations maghrébines ou africaines. Cette référence à l'histoire coloniale récente est importante, et le traitement de ce passé est décisif pour affronter les défis du présent. Mais cela doit-il se faire au détriment de la question sociale? Les jeunes, quelles que soient leurs origines, restent les principales victimes d'une discrimination essentielle, le droit au travail. Les jeunes sont aujourd'hui nombreux à espérer une vie meilleure que celle de leurs parents. Et ils ont peur que cela devienne de moins en moins le cas. La fracture ethnique, si souvent brandie de nos jours, ne doit pas nous faire perdre de vue la question sociale. La France reste le pays d'Europe où le taux de chômage dans la jeunesse est l'un des plus importants. Quelles conséquences cela a-t-il? Comment comprendre la culture de la rue vis-à-vis de la culture ouvrière traditionnelle? Quels sont les effets des pratiques de ségrégation, de précarité sociale sur les conduites culturelle, politique, dans la jeunesse actuelle. Pour combattre la délinquance et les conséquences du chômage, faut-il revenir à l'éducation morale prônée par la République à la fin du 19e siècle? De cette question, j'ai invité Isabelle Coutan, docteur en sociologie, agrégée répétitrice à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, auteur de Délit de jeunesse, la justice face au quartier, qui est paru déjà il y a plusieurs mois aux éditions La Découverte. Également avec nous par téléphone Reda Benkiran, lui aussi sociologue, consultant auprès d'organisations internationales à Genève et auteur d'un ouvrage, Le désarroi identitaire, jeunesse, islamité et arabité contemporaine, qui est paru aux éditions du CERF. Et Omar Bitan, jeune aujourd'hui engagé dans le combat associatif et politique. Joindre par téléphone en direct pour nous poser vos questions sur le 01 42 20 62 62 01 42 20 62 62. Isabelle Coutan, bonjour. Vous avez, pour les besoins d'une thèse, mené une grande enquête sur les dispositifs judiciaires en région parisienne en confrontant la parole de victimes d'incivilité, les habitants des grands ensembles, les enseignants, les éducateurs, les policiers, à celle des mineurs délinquants et de leurs parents. Vous avez accordé une place importante aux entretiens, notamment en maison de justice. Le sentiment répandu qui existe aujourd'hui dans la société française est le suivant. Enfin, vous le savez, vous l'avez dit dans votre ouvrage. âge et que les jeunes sont de plus en plus difficiles à gérer, entre guillemets. Et parmi ces jeunes, il y a bien sûr ceux qui sont d'origine immigrée particulièrement. C'est même le terme qu'on emploie le plus souvent, c'est-à-dire de jeunes, entre guillemets, pour en fait désigner les personnes qui sont issues notamment de l'immigration maghrébine et africaine. Isabelle Coutant, est-ce que vous avez ce sentiment que les jeunes sont de plus en plus, entre guillemets, difficiles à gérer?
Les comportements déviants d'une partie de la jeunesse ne sont pas du tout des comportements nouveaux. La délinquance juvénile en milieu populaire, en tout cas, est quelque chose qui a été régulièrement dénoncé. On a eu les blousons noirs, au début du siècle, il y avait les apaches. Enfin, il y a tout le temps eu comme ça des inquiétudes de la part des politiques et des classes dominantes à l'égard, en tout cas, de la jeunesse populaire. Mais effectivement, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que cette jeunesse, elle est devenue plus ingérable. Donc, pas tant du fait de la nouveauté de comportement délinquant que du fait que les modes de régulation antérieurs fonctionnent aujourd'hui moins bien.
Qu'est-ce que vous entendez par mode de régulation?
Alors, c'est-à-dire qu'il y avait une régulation interne aux classes populaires, il y avait des rappels à l'ordre internes aux classes populaires, et il y avait aussi les jeunes se rangeaient en rentrant sur le marché du travail. Il y a un bel ouvrage des années 50 qui s'appelle « La culture du pauvre » d'un sociologue anglais qui montrait que finalement l'éducateur c'était le travailleur adulte dans l'atelier, c'était lui qui prenait en charge les jeunes entrants qui avaient pu être des jeunes ingérables sur quelques années mais sur des temps relativement courts.
Donc grâce à l'entrée dans la production, comme on disait à l'époque, il y avait la possibilité, disons, de se, entre guillemets, calmer,
voilà,
socialement.
Donc il y avait une forme comme ça de conversion relativement, enfin spontanée en tout cas, un passage de la rue, de la bande à l'atelier, et avec un encadrement qui se faisait davantage sur le marché du travail ou éventuellement dans l'espace du quartier, parce que les classes populaires étaient traversées par des tensions comme aujourd'hui, mais par des tensions sans doute moindres que celles qu'elles connaissent aujourd'hui.
Donc il y avait une sorte de culture ouvrière qui était quand même donnée par les syndicats, par les partis politiques, par le mouvement associatif, qui était quand même très développée dans les années, jusqu'aux années 60, 70, voire jusqu'aux années 80.
Ah, voilà, et c'était cette culture-là qui avait une force intégratrice, et donc les jeunes finalement on tolérait relativement bien les débordements de cette jeunesse, en tout cas des garçons. Pendant quelques années, il fallait que jeunesse se passe, il fallait profiter parce qu'après ça allait être dur. Donc il y avait une relative tolérance interne par rapport à ces comportements-là, et finalement une culture qui relativement cohésive, qui faisait que ces jeunes étaient ensuite intégrés.
Alors donc vous parlez donc de culture de rue, opposée précisément à cette fameuse culture ouvrière. C'est-à-dire la culture ouvrière, c'est celle qui était donnée par les partis politiques, les syndicats, les mouvements associatifs. Alors qu'est-ce que vous entendez par culture de rue?
Alors le terme de culture de rue, il a été employé notamment par Le Poutre, qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Cœur de banlieue il y a quelques années. Donc c'est plus une notion qui vient de l'ethnologie ou de l'anthropologie. C'est aussi un concept qui est pas mal utilisé par les anthropologues américains qui travaillent sur la ville. Alors je l'ai tout le temps utilisé au singulier, ce terme, dans l'ouvrage, parce que je suis pas sûre qu'en France on puisse parler d'une culture de rue. Peut-être qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas ce terme il m'était très utile pour montrer qu'il y avait quand même des comportements d'une partie de la jeunesse, en tout cas relativement autonome, qui fonctionnaient autour de valeurs qui leur étaient propres, notamment toute une,
par exemple,
la défense de l'honneur, le sens de la réputation, un langage aussi, mm-hmm, qui leur est propre, langage de qu'on appelle langage de rue,
langage de quartier.
Langage
mais
de
est-ce
quartier.
Que vous pensez pas que ces notions que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est-à-dire la virilité, l'honneur, la famille, la protection de entre guillemets de la sœur, etc. Est-ce que ça c'est pas aussi le produit d'une culture, d'une tradition?
Qui serait une culture qui viendrait d'autres pays, par exemple?
C'est la question qu'on va poser, bien sûr, à Reda Benkirane, mais
voilà.
Je voudrais entendre votre point de vue là-dessus.
Je pense qu'en tout cas, c'est complexe. Il y a des influences qui sont sans doute multiples. Je ne pense pas qu'on puisse simplement parler d'un transfert d'une culture des pays du Maghreb vers la société française, parce que cette culture de rue, elle est souvent relativement désavouée par les parents. Je pense que c'est pas si simple. Cette culture traditionnelle qui fait que la fille doit se soumettre à ses frères, elle peut aussi être une culture
méditerranéenne,
mais pas que méditerranéenne. Je pense aussi peut-être dans la classe ouvrière française dite traditionnelle, je sais pas, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est propre aux classes populaires en général.
Donc vous ne croyez pas à l'explication entre guillemets civilisationnelle pour comprendre les troubles qui existent aujourd'hui dans la société française, par exemple?
Je pense que à soi seul ça ne suffit pas, ça peut être un facteur parmi d'autres. Je pense pense qu'effectivement la place de l'islam c'est pas à négliger, effectivement la question de l'honneur elle est effectivement aussi présente dans les cultures du Maghreb, donc faut le prendre en compte, mais je pense que c'est pas le seul facteur qui explique le comportement de cette jeunesse. Oui.
Alors il y a un autre aspect que vous abordez dans cet ouvrage qui est très très intéressant, surtout quand on le lit aujourd'hui à la lumière du drame de la Courneuve, de ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin dimanche dernier. On voit dans cet ouvrage que vous récusez aussi la théorie de la vitre cassée, c'est-à-dire que la succession, ce que vous appelez la théorie de la vitre cassée, c'est-à-dire qu'en cassant une vitre, ensuite on peut être amené à commettre des incivilités beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes, et sombrer dans la grande délinquance. Pour vous, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre ou de s'interroger sur cette théorie de la vitre cassée.
En tout cas, c'est une théorie qui a été contestée par d'autres sociologues, notamment Loïc Vacan, qui est aux États-Unis, et qui dit, lui, que finalement, d'une part, c'est une théorie qui n'est pas véritablement démontrée, pas empiriquement fondée, et qu'en plus, la politique sur laquelle elle débouche, cette théorie, qui dit, en gros, on dit qui vole un œuf vole un bœuf, quoi. Donc il faut réagir au premier délit de façon très ferme.
C'est ce que dit, par exemple, Nicolas Sarkozy aujourd'hui.
Voilà, et il y a des sociologues français qui sont un petit peu dans cette mouvance, c'est comme Sébastien Rocher. Le problème, et donc ce que m'employait Vacances aux États-Unis, c'est que cette politique qui a été menée à New York, en fait, finalement, n'a pas porté ses fruits. Donc c'est finalement, on importe ça actuellement en France, alors que il y a des travaux américains qui montrent que c'est plus complexe, quoi. Donc moi, je montre que en même temps, taper trop fort sur ces jeunes trop tôt, c'est peut-être aussi prendre le risque de les casser définitivement. Et donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur des trajectoires de jeunes anciens délinquants qui, à un moment donné, ont changé de comportement, mais aussi parce qu'ils sont rentrés, justement parce que leur casier judiciaire a pas été chargé trop tôt et parce qu'ils avaient encore des possibilités de faire autre chose à l'issue de l'adolescence, quoi.
Parce qu'on a le sentiment quand même qu'au fur et à mesure, enfin c'est un sentiment personnel, mais je crois que vous indiquez aussi dans vos travaux, c'est qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure que l'État se désengage des sphères économiques et sociales, hein, en privatisant même, y compris, il durcit en fait son action morale.
Oui, son action pénale aussi.
Pénale,
oui.
Pardon.
Oui, oui. Parce que son action morale, c'est encore une autre question.
Ce serait peut-être pas
inintéressant, mais en fait, c'est l'action pénale qui durcit surtout. Oui, c'est la thèse justement de Loïc Vacan qui dit qu'en fait, au fur et à mesure que l'État social perd de sa vigueur, l'État pénal le remplace, et c'est ce qui monte sur les États-Unis.
Et
il craignait que ça se développe en Europe. Bon, après, c'est aussi controversé. Mais on est dans une période, effectivement, où on a ce sentiment-là. C'est que d'un côté, les moyens pour l'éducation, les moyens pour le travail social sont en restriction.
Et on monte en puissance sur les moyens donnés au pénal.
Voilà, à la répression.
Alors, on a avec nous au téléphone de Suisse Reda Benkiran. Bonjour.
Bonjour.
Bien, alors, Reda Benkiran, rapidement, je vous présente. Donc, vous êtes né au Maroc en 1962 et vous avez séjourné dans de nombreux pays de ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe, c'est-à-dire l'Algérie, l'Égypte, et vous avez surtout fait votre thèse il y a plusieurs années maintenant sur les jeunes des banlieues déshéritées de Casablanca, hein, si mes informations sont exactes. Donc vous êtes particulièrement familier des problèmes touchant particulièrement donc ce qu'on appelle la jeunesse urbaine, hein, et les mobilités de jeunesse urbaine, les incivilités, les problèmes de crise à la fois sociale, mais surtout identitaire. Donc vous avez une approche de la jeunesse aujourd'hui entre les deux rives de la Méditerranée, parce que la particularité de votre ouvrage, c'est précisément de se situer entre les deux rives, c'est-à-dire du côté du Maroc ou de l'Algérie, et puis du côté de l'Europe particulièrement. Donc vous avez cette vision d'une rive à l'autre de la Méditerranée, où vous insistez davantage sur la question, donc, pour reprendre l'expression de votre ouvrage, du désarroi identitaire. Est-ce que pour autant cela signifie que vous opposez donc à la question sociale ? Reda Benkiran.
Oui, absolument pas, non. Je pense que ces questions sociales, économiques et culturelles se chevauchent dans certains espaces du fait d'une configuration urbaine, du fait d'une politique urbanistique. Et voilà, si on a mis des gens disons, issus de plusieurs générations d'exode rural dans les banlieues, et qu'on a essayé de les laisser, disons, se concentrer là, sans les inciter à se métisser, à se mélanger, bon ben vous avez une coalescence qui se produit, vous avez voilà une affirmation peut-être un peu de type culturel qui se met en place, mais c'est un chevauchement, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément déterministe. Moi je suis à Genève, dans une cité qui s'appelle Mérin. C'est une cité comme beaucoup de banlieues françaises. Il y a 80 nationalités. Il se trouve que dans cette cité, il y a beaucoup de mélanges de cultures, mais il y a aussi beaucoup de mélanges socio-économiques. Vous avez Genève, c'est la capitale mondiale, une des capitales mondiales de la diplomatie. Vous avez des gens des Nations Unies, vous avez des cognitaires du CERN, du plus grand laboratoire de physique de particules qui se trouve juste à côté, entre la France et la Suisse, à Mérin. Et vous avez aussi des prolétaires, vous avez des ouvriers portugais, espagnols, parce que c'était les premières aussi immigrations. Vous avez les générations de Kosovars ou de Somaliens qui sont venus suite à des politiques d'asile. Et donc c'est une cité qui est très bien gérée, et il y a un mélange. C'est-à-dire on essaye d'éviter que...
Mais vous pensez que ce mélange fonctionne moins bien, par exemple, aujourd'hui dans la société française ?
Mais je pense que quelque part nous avons l'urbanisme qui a conçu une sorte de gestion de la différence socioculturelle, a coagulé, a aggloméré dans la ségrégation spatiale un certain nombre de populations qui sont issues des différentes couches de peuplement de la colonisation et de l'immigration. Et cette mise au banc dans les périphéries urbaines, c'est-à-dire aussi un peu à l'écart du centre et de l'équilibre, de préférence aussi à la verticale, donc les gens ne sont pas forcément entassés les uns à côté des autres, comme je le voyais par exemple dans les bidonvilles de Karen Bensik à Casablanca, mais les uns au-dessus des autres. Vous avez une sorte d'humanité plurielle, un peu tout couleur, qui est à la fois solidaire et dispersée. C'est aussi une mondialisation des peuples qui se donne à voir aussi. Et voilà, je pense que c'était peut-être, on paye les prix aussi de cette vision urbanistique. Et au Maghreb, rappelez-vous, nous avons aussi hérité de la politique urbaine, donc les grandes cités, Casablanca, Alger, Tunis, ont eu ce modèle un peu d'extraversion. Vous savez que le modèle traditionnel de la ville en islam, c'est l'extérieur, la richesse se donne à voir à l'intérieur, la médina, les murs sont lisses, il y a une sorte d'uniformité à l'extérieur, et c'est une fois qu'on pénètre dans la cour que l'on découvre la différence, la variété et le modèle urbain moderne. Bon, c'est la cité contre Prador, l'affichage du luxe ou la séparation, disons, des différents quartiers, etc. Donc, si vous voulez, les différences sont plus criantes. Et nous avons hérité un peu de cette politique urbaine aussi.
De l'autre côté, donc, de la Méditerranée, au Maghreb, on a au téléphone avec nous Khalid, qui voudrait intervenir maintenant sur ce débat. Khalid, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Stora.
Oui,
je voulais simplement témoigner sur trois points précis. Très récemment, Jean-François Madieu, professeur à l'Observatoire de Paris-Sorbonne, a démontré avec un testing scientifique tout à fait remarquable que le patronyme, le nom maghrébin, mais on peut aussi le démontrer pour la couleur et donc les origines, pour l'accès à l'emploi avec le handicap est le plus flagrant. Autrement dit, les jeunes d'origine maghrébine et africaine ont un mal énorme pour accéder au marché du travail, et ça c'était une donnée assez niée dans la République française.
Absolument.
Ceci a été démontré dans les pays anglo-saxons il y a déjà fort longtemps, les Anglais là-dessus ont 30 ans d'avance.
Absolument.
Ça c'est le premier point, donc il y a une difficulté énorme à accéder. Le deuxième, c'est tous les métiers porteurs, ne parlons pas des grandes filières d'excellence réservées aux initiés, parlons simplement, d'ailleurs le président de la République l'a souligné récemment lors de l'installation de la haute autorité de lutte contre les discriminations, qu'il y avait un accès tout à fait inégal pour les grandes filières. Mais parlons des métiers porteurs, par exemple manuels. Et là, on retrouve la dévalorisation du travail manuel qui est lié aussi à des éléments culturels que vous connaissez infiniment mieux que moi. Donc là aussi, là, je parle en tant que consultant des ressources humaines, donc pas du tout en tant que sociologue, vous m'en excuserez, c'est toute cette incapacité à les orienter aussi vers les lieux où il y a de l'emploi, donc où une compétence est solvable. Ça se cumule avec le premier point. Et le troisième, c'est véritablement aujourd'hui, ces jeunes ont un problème, une fois dans les entreprises, à gravir les échelons et à aller au poste de responsabilité.
Tout à fait.
Cumule ces trois facteurs, fait qu'ils se raidissent.
C'est explosif,
identitaire.
Absolument. Tout à fait. Alors on va être obligé de marquer un premier arrêt. On dit pas une pause, pareil que ça fait ringard, je sais pas. Donc on va marquer un premier arrêt et on répondra et on reprendra la discussion donc avec Khalid après cette plage musicale.
Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate con el lotero siquiera un día, que como se la lleva al río, como se la lleva el agua a cañita, el corcho que te pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Si una vez que te quise fue por el pelo y ahora que estás pelona ya no te quiero, que como se la lleva el río, como se la lleva el agua la cañita, el corcho con que me cabao, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada una mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada una mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la tarde, a ti lo que te gusta, mora, palito de ron. Oh, 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 oh.
Sur France Culture et sur Beurre FM pour cette émission Bouge dans ta tête consacrée aux jeunes aujourd'hui dans la société française avec la question de l'identitaire et du social. Alors Isabelle Coutant, est-ce que vous voulez réagir au propos de Khalid l'auditeur qui vient d'intervenir sur l'accumulation de facteurs explosifs hein, qui se conjuguent, se combinent pour donner cette sorte de mélange quand même qu'on vit aujourd'hui, c'est la ségrégation, l'identité, etc. Isabelle Coutant.
Mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit et les travaux que je connais montrent la même chose. Il y a une discrimination évidente des jeunes à l'égard des jeunes issus de l'immigration sur le marché du travail. Encore plus pour les garçons que pour les filles. Et dans le cas des jeunes que moi j'ai rencontrés, qui en plus sont non qualifiés et relativement insérés dans la culture de rue, les chances d'insertion sont minimes, quoi, parce qu'aussi ils sont pas du tout ajustés à ce qu'on attend d'eux sur le marché du travail. Et donc c'est pour ça qu'il y a un travail socio-éducatif qui est nécessaire aussi pour leur expliquer un peu quels sont les codes relationnels nécessaires. C'est vrai, il faut que j'insiste sur le fait que les jeunes que moi j'ai rencontrés, dont je parle dans ce livre, donc sont des jeunes qui ont un passé délinquant, qui sont insérés dans la culture de rue, sont pas tous les jeunes des quartiers. Ce sont encore moins tous les jeunes issus de l'immigration. On rappelle jamais assez le fait qu'il y a de nombreux jeunes dans ces espaces et de nombreux jeunes issus de l'immigration qui ont poursuivi des études longues, qui sont pas du tout
en situation d'échec,
et dans la culture de rue. Mais par contre, tous rencontrent effectivement ces phénomènes de discrimination sur le marché de l'emploi.
Alors Reda Benkiran, vous écrivez dans votre ouvrage à propos donc du désarroi identitaire, je vous cite, pour les laisser pour compte du présent, le dernier monothéisme attire énormément. À Casa ou à Gaza, au Minguette et à Harlem, on dirait qu'il est la religion des pauvres. D'où sa force, cet attracteur qui happe en son sein les démunis, oubliés de tous bords. Mais il faut aussi le dire aux pauvres, l'islam n'est pas que cela. Reda Benkiran, donc vous pensez qu'aujourd'hui, la question religieuse prend une coloration sociale ?
Oui, dans le sens où c'est une donnée qui est assez générale, qu'on retrouve pour d'autres religions que l'islam, c'est-à-dire que la réaffirmation d'un ancrage de type ethnique, culturel ou religieux est manifeste. Et il y a une facette constructive qui, je pense, peut correspondre. Il y a un aspect très constructif dans cette identification, quand une jeunesse marginalisée sur le plan de vue socio-économique et affronte un état, disons, assez décomposé de la réalité économique sur le plan de l'accès au travail, au logement, et droit à la liberté d'expression et des choses de ce type. L'ancrage religieux peut jouer un rôle constructeur, mais il y a aussi une facette, il faut aussi c'est ambivalent, il y a aussi une facette assez destructrice, parce qu'il peut y avoir aussi des tendances suprémacistes d'affirmation de soi par rapport à des autres. Donc c'est un aspect
contradictoire.
C'est un aspect ambivalent. Mais sur le terrain, moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais fait par exemple une grande enquête dans le bidonville de Casablanca de Bensik, qui était un endroit où il y avait eu des émeutes urbaines, où il y avait une politique de réhabilitation sociale financée par l'USAID, les Américains, et il y avait un processus de recasement. Moi, je m'intéressais aux changements socioculturels, mais je voyais quelques profils. Je voyais un premier profil qui essayait de s'identifier à un islamisme, mais perçu pas tellement sur le plan politique, mais plutôt comme une sorte d'écologie sociale qui essayait d'avoir raison de certaines nuisances d'urbanisation. Je voyais une autre tendance qui était l'intérêt de la migration, donc le désir de partance, y compris par voie clandestine, pour l'Europe. Je voyais un autre profil sociologique, c'était l'envie de dissimulation, c'est-à-dire cacher sa condition bidonvilloise ou son origine de quartier. Parce que c'est aussi un marqueur qui vous poursuit et il est légitime que pour certains, c'est une élite qui cherche à apparaître incognito dans l'espace urbain pour ne pas être marqué de connotations négatives. Et enfin, un scénario limite, un autre profil limite, c'était quand même, il faut le souligner, il y avait quand même des comportements extrêmes de délinquance, criminalité, qui n'épargnent jamais l'espace précaire. Bon, évidemment, ces tendances peuvent se mêler dans l'itinéraire d'un même individu.
Dans une même personne, bien entendu. Voilà. Alors, on a au téléphone Marie-Claire, bonjour.
Bonjour.
Allez-y, vous êtes en direct, là, sur France Culture.
Je suis assez émue, excusez-moi.
Non, allez-y, il n'y a pas de problème.
Bon, je ne me souviens plus du nom de l'intervenant qui est à Genève. Mais...
Rida Benkirane.
Oui, je trouve que j'ai fort apprécié tout ce qu'il a dit au sujet de la politique urbaine. Et je suis entièrement d'accord, parce que vivre dans certaines zones... ça doit être franchement épouvantable, même pour des gens entre guillemets normaux. Moi, j'étais institutrice et franchement, on n'avait pas du tout envie d'aller dans certains quartiers à Limoges. Mais il a bien analysé la situation, mais qu'est-ce qu'il préconise comme solution de politique urbaine? Parce que si tout le mal vient de la politique urbaine, il y a urgence à rectifier cette politique qui cause le mal de toute la société.
Mmh. Donc en l'occurrence, vous dites il y a un diagnostic qui est établi, on dit qu'il y a donc un problème très grave, très important d'urbanisation qui traîne en France depuis une trentaine d'années, et que ça ne suffit peut-être pas à expliquer le désarroi social et identitaire, qu'il y aurait peut-être là aussi des questions politiques aussi à aborder directement. On a parlé tout à l'heure avec Isabelle Coutant du rapport qui existe entre le désengagement de l'État et de l'accroissement des politiques de répression, des politiques pénales. Donc il faudrait peut-être réfléchir aussi à cette question. Effectivement, vous avez raison, Marie-Claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas peut-être et uniquement des questions d'urbanisme qui peuvent entrer en ligne de compte pour analyser cette crise ou ce désarroi social. Alors on a avec nous précisément Omar, donc, qui est investi dans le mouvement associatif. Depuis tout à l'heure, vous nous écoutez parler des problèmes, de crise, de désarroi, de la jeunesse d'aujourd'hui, d'avenir en panne. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toutes ces analyses, de ces diagnostics qui sont faits aujourd'hui de la jeunesse en France, Omar?
Ben en fait, moi, j'ai décidé de m'engager dans le milieu associatif, politique et tout ça, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que depuis tout jeune, donc j'habite dans une cité depuis tout petit.
Je précise que vous avez 20 ans.
J'ai 20 ans, voilà, je suis étudiant en économie. Donc je me suis rendu compte que depuis tout petit, donc j'avais beaucoup de fréquentations de gens qui vivaient dans les cités et tout ça. Donc je me suis rendu compte que tous ces jeunes-là qui avaient mon âge et tout ça, à longueur de journée, bon, ils arrêtaient pas de se plaindre, ceci ça va pas, on se fait contrôler par la police, ceci cela, on trouve pas de travail, enfin bref, que des inconvénients. Et donc moi, au lieu de me dire de me plaindre à longueur de journée, de tenir les murs en bas, de rien faire et tout ça, donc j'ai décidé de, comme mes parents sont aussi engagés dans le milieu associatif, donc j'ai décidé de m'engager aussi un petit peu. Histoire de, je vais pas dire changer le monde aussi, je vais pas abuser quand même, mais histoire de d'apporter quelque chose, essayer d'apporter quelque chose en plus pour la ville où j'habite, pour les jeunes que je connais, tout ça. Mais bon, je vais pas dire que je vais tout changer, c'est faux, je mentirais si je dirais ça.
Et vous pensez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à s'engager sur le plan politique, associatif?
Non.
Alors en fait, pourquoi est-ce qu'il y a ce refus?
On les motive pas, ils sont pas assez informés. Enfin, ils sont vraiment dans leur cité, ils bougent pas, ils voient vraiment que leur cité. Dès qu'ils sortent en dehors, vraiment, ils sont vraiment dans un monde inconnu. Donc, ils connaissent pas l'entourage, quoi. Mm-hmm. Donc, ils sont vraiment pas informés, il y a rien du tout, ils sont pas au courant du tout. Donc, moi, c'est pour ça que je suis au courant grâce à mes parents, à mon entourage et tout ça. Mais quand je vois des amis à moi qui ont des parents, quoi, qui sont souvent analphabètes ou tout ça, donc je vais pas me dire, ouais, c'est de leur faute, ils comprennent pas tout ça. Donc c'est normal un petit peu qu'ils ont cette vision-là des choses.
Mais par exemple, quand il y a eu la campagne électorale là, récemment sur la question du non au référendum ou du oui, est-ce qu'il y a eu des discussions politiques par exemple parmi les jeunes dans les quartiers?
Un petit peu, mais bon, il n'y avait pas d'argument. C'était non et voilà quoi.
Ils étaient pour le non majoritairement.
Ouais, majoritairement, ouais. Ouais. C'était pour un non, voilà,
contre la condition qui était la leur, contre la peur du chômage, voilà, la question de la police, voilà, la répression,
ça,
voilà, les contrôles. Donc c'était non pour ça, quoi.
Voilà. Il n'y avait pas d'argument précis. Enfin, c'est pas des arguments vraiment valables. C'était vraiment que ça.
Donc on est vraiment dans le refus, quoi.
Voilà, exactement. Refus total.
Refus total.
De tout.
De tout. Mmh. Et vous pensez que ça peut déboucher sur des incivilités, des dissidences, enfin des affrontements?
Bah, franchement, je trouve que depuis quelques temps, je trouve que ça fait que s'empirer. Et franchement, si ça continue comme ça, moi, c'est pas pour être pessimiste, mais bon, franchement, là, je le suis. Enfin, franchement, en voyant les jeunes, enfin même de plus en plus petits, hein. De plus en plus petits, donc ça commence vraiment, en fait, ça, même vers 5-6 ans, et je me dis là, franchement, si ça continue comme ça, comment chez nous, c'est mal barré, quoi.
Isabelle Coutin, vous écoutez Omar attentivement, vous avez croisé, rencontré beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont, dans pour votre enquête, hein, qui sont dans cette situation de refus des institutions, des autorités, de la politique, de l'État.
Mais,
Isabelle Coutin.
Donc les jeunes que moi j'ai rencontrés, donc c'est une sous-partie, hein, de l'ensemble des jeunes qui habitent ces quartiers, ce sont des jeunes qui étaient suivis par l'institution judiciaire, suivis par des éducateurs, donc c'est très particulier. Effectivement, le rapport au quartier qu'Omar souligne, il le décrivait. Hein, effectivement, ils sortent pas forcément beaucoup du quartier, ils sont pas très à l'aise quand ils en sortent, ils n'ont pas les codes. Après le rapport. Le rapport à la politique, il s'intéressait quand même à la politique, on en a parlé, mais effectivement, souvent, la plupart refusant de voter, en disant quand même effectivement que droite, gauche, ils voient pas bien la différence, que effectivement, ils se sentent...
On a le sentiment, par exemple, Isabelle Coutin, quand on lit votre ouvrage, que dans le fond, tout le monde se sent abandonné. C'est-à-dire les jeunes, bien sûr, se sentent abandonnés dans leur quartier, laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, mais j'allais presque dire même les éducateurs, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'encadrer cette population-là, et eux-mêmes ont le sentiment de l'abandon. C'est-à-dire que tous les acteurs ont le sentiment de l'abandon.
Oui, oui, et je pense qu'on rejoint ce que vous souligniez tout à l'heure au début de l'émission. C'est en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a le désengagement de l'État social. Mmh. Donc effectivement, tous les travailleurs sociaux, les enseignants qui sont chargés de remplir cette mission sociale se sentent abandonnés par leurs institutions de tutelle, puisqu'on leur dit à la fois de faire ce travail, en même temps on leur en donne pas les moyens. Mmh. Ils sont en première ligne, confrontés à ces jeunes difficiles, en ayant le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment soutenus par leurs institutions. Et les familles aussi se sentent abandonnées. Moi, j'ai vu beaucoup de familles en maison de justice, donc qui étaient là parce que leurs enfants de 13 ans avaient commis des premiers délits, des tout petits délits, hein. Et beaucoup, notamment de familles donc immigrées, première génération. Et quand on parle de l'irresponsabilité parentale, moi, ça me semblait... totalement décalés. C'est des gens qui étaient très très inquiets. Enfin, des mères qui pleuraient, des pères qui racontaient qu'ils n'avaient pas dormi pendant une semaine, très angoissés, et qui en même temps demandaient pour la plupart un soutien éducatif. Mmh. En disant, mais oui, il y a les fréquentations, moi je sais pas, j'arrive pas, je peux pas être tout le temps derrière, on sait pas ce qu'ils font dehors. Et en fait, j'ai vu beaucoup de familles demander un soutien éducatif, un éducateur, et pour le coup, là, l'institution leur dit, vous élevez pas vos enfants comme il faut. Et en même temps, après, elle les laisse face à ce constat-là, et sans apporter, parce qu'un éducateur, ça coûte trop cher, et donc on n'est pas dans une logique où l'État s'engage sur ces sujets-là.
Alors là, vous soulevez un problème que vous abordez d'ailleurs dans votre conclusion, où vous dites, je vous cite, donc Eric Hirschbaum, qui est un grand historien, avançait l'idée que le changement majeur qui avait marqué le XXe siècle était l'émancipation des femmes. Sans remettre en cause les acquis du féminisme, il pensait que la question de l'éducation des enfants, qui était jusqu'alors l'apanage des femmes, se posait différemment désormais et que nous n'avions pas saisi toute la mesure des changements opérés. C'est-à-dire la question de la famille et des rapports hommes-femmes. Isabelle Coutant.
Oui, et la question de la fonction de l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes s'émancipent, où les femmes travaillent, la question de qui doit assurer cette éducation se pose différemment. Alors, Hobsbawm disait, et je le suis tout à fait, qu'il ne s'agissait pas de dire à nouveau les femmes à la maison et les femmes doivent s'occuper des enfants. Il s'agissait de se demander comment assurer aujourd'hui cette fonction-là. Et une des pistes, en tout cas, moi là du coup je reprends un sociologue du siècle dernier, et qui était un des instigateurs de la Troisième République, qui disait, mais c'est le rôle de l'État. L'éducation morale, c'est une fonction étatique. Et donc voilà, et c'est pour ça que quand j'entendais ces familles demander un soutien éducatif, et que justement, et sans qu'on leur en offre un, il me semblait qu'on retrouvait ces questions-là.
Alors à propos d'engagement précisément, Reda Benkirane, vous écrivez de votre côté sur ce terrain très très particulier de l'engagement, vous parlez de l'islamisme politique, et vous écrivez la chose suivante: l'islamisme est une logique urbaine, elle sous-entend la primauté du politique, c'est dans les bas-fonds urbains que l'on défait les sous-sols mythologiques. Alors Reda Benkirane, sur cet engagement que vous voyez, y compris à travers l'islamisme politique, vous pensez que c'est un des moyens possibles, disons, d'expression politique aujourd'hui qui peut se développer, par exemple, dans des sociétés comme la société française? Reda Benkirane.
Je pense que l'islamisme, bon, je parlerai plutôt de mouvance, mais j'essaye, si vous voulez, de faire une comparaison avec d'autres phénomènes qui ont touché des jeunesses dans les années 60 et 70, je pense la grande aventure marxiste, les différents mouvements plus ou moins radicaux, plus ou moins armés, et si vous voulez, je fais une comparaison avec ce méga phénomène qu'on appelle l'islamisme, et qui à la fois fascine et qui aussi déconcerte. Mais je pense qu'il y a un aspect de lutte pour un accès à la citoyenneté, un enjeu, c'est au niveau de la citoyenneté, mobiliser les jeunes. Je pense que l'utilisation du religieux est un vecteur, mais ce n'est pas la finalité. Je ne pense pas que... Je pense qu'à travers... il y a l'historien Marcel Gauchet qui parlait de la sortie de la religion. Moi, je dirais que... Et il parlait de sécularisme religieux. Peut-être que...
La sécularisation par le religieux, c'est-à-dire par l'engagement religieux.
C'est intervenu dans des sociétés où il y a eu un exode massif, un exode rural massif qui s'est fait en moins d'un siècle, alors qu'en Europe, les processus majeurs d'alphabétisation de masse, d'urbanisation, de migration en mille deux siècles, où ça s'est fait très très rapidement en Afrique du Nord, et donc dans des régimes aussi où la liberté de parole n'était pas garantie, donc l'utilisation du verbe religieux peut-être est un moyen de mobilisation, mais je pense pas que ce soit la finalité. Je crois que peut-être la finalité, c'est justement la gestion de la police, de la cité, la mobilisation, capter la dynamique de mécontentement social. Moi, je n'ai pas un avis tranché, catégorique. Je pense que l'islamisme se modère dans des régimes ouverts, démocratiques, et qu'il se radicalise dans des situations
c'est ce que vous expliquez.
Autoritaires ou d'extrême violence. Donc il se nourrit un petit peu de l'exacerbation des conflits, etc. Mais il faut peut-être l'impliquer. Je crois que c'est ce qui s'est passé plus ou moins un petit peu en France ces dernières années, et finalement Bon, on a beaucoup parlé d'institutionnalisation de l'islam français à travers le conseil du culte, etc. Bon, on craignait beaucoup la mouvance des islamistes purs et durs, et finalement, en les intégrant dans le jeu, finalement, ils ont
baissé leur influence.
Voilà.
Alors, sur cette question de l'engagement par le religieux, on peut peut-être rapprocher ce point de vue-là d'un autre point de vue qui est exprimé par Isabelle Coutan dans son ouvrage, qui parle de l'éducation morale, c'est-à-dire les valeurs de la République, les grandes valeurs de la République de la fin du 19e siècle, qui voulait fabriquer, construire l'homme nouveau, l'homme moral. Et est-ce qu'on peut, disons, dire que les valeurs de la République sont quelque part aussi comme valeurs morales, comme valeurs d'éducation, sur le même terrain que les valeurs du religieux?
Ben oui, enfin la morale et la fonction d'éducation morale avant la République, elle était assurée par l'Église. Et cette notion d'éducation morale qui est utilisée à la fin du 19e siècle, c'est effectivement la question que se posent les républicains, c'est on veut une école laïque, mais on doit donc assurer, nous, républicains, hommes laïcs, on doit assurer, nous, cette éducation morale à la place de l'Église, à la place de la morale religieuse. Mmh. Donc c'est, effectivement, c'est des choses qui ont à voir et que la religion... Et une place effectivement importante dans les quartiers aujourd'hui, c'est effectivement pas anodin. Moi, il y a de nombreux jeunes que j'ai rencontrés effectivement qui expliquaient aussi que leur éventuellement ils changeaient de comportement aussi parce qu'à un moment donné ils s'intéressaient à l'islam. Alors avec des choses, je sais pas, je pense que c'est quand même aussi assez hétérogène, hein, tout le rapport à la religion. Il y a des rapports à la religion très très variés. Enfin, faut pas non plus trop unifier sous le terme de religion.
Robert, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cet engagement qui s'opère bien sûr par le politique, donc c'est pas le cas, l'associatif, au plan traditionnel, classique, et puis il y a l'engagement qui s'opère aussi sur le biais des valeurs religieuses.
C'est vrai, exactement. On remarque de plus en plus dans la cité, bon, on parle d'islam, tout ça, et bon, c'est de plus en plus vrai, et je trouve que depuis un certain temps, bon, ça se répand de plus en plus. On voit de plus en plus de jeunes qui rentrent dans l'islam, et bon, soi-disant, enfin, moi je connais des jeunes qui avant avaient un passé soi-disant délinquant et tout ça, et enfin qui étaient vraiment des petits délinquants. Et une fois rentrés dans l'islam, ça y est, ils sont posés. Donc pour eux, c'est soi-disant un moyen de s'en sortir. Ils rentrent dans l'islam pour ça, pour essayer de se poser, de tirer un trait sur leur passé délinquant et tout ça. Donc c'est leur façon de s'en sortir. Bon, chacun sa façon. Si ça marche, tant mieux. Bon, voilà.
Eh bien, on a entendu Omar, là, ce point de vue qui est quand même très très important sur France Culture, donc en direct, avec Isabelle Coutan, donc qui est sociologue, qui est agrégée répétitrice au département de sciences sociales à l'École Normale Supérieure, Reda Benkiran, qui est avec nous, donc en direct de Genève, donc qui est l'auteur aussi du Désarroi Identitaire. On va donc arrêter maintenant cette discussion. J'espère qu'on aura l'occasion, parce que c'est un immense chantier de questionnement. J'espère qu'on aura la possibilité de pouvoir développer tout cela, et on reprendra ensuite notre discussion, mais à partir et à propos d'un film qui vient de sortir sur la guerre d'Algérie.
D'affronter un ténu en tête à tête, sortir à l'aube, fumer ma première.
chanson de d'Aurélien Rotterdam et on va maintenant discuter, parler, évoquer un film qui est sorti en salle depuis maintenant une quinzaine de jours, qui est un film d'Augustin Burger, et avec Augustin Burger il y a Amougraya qui est à l'affiche de ce film. C'est un film qui porte pour titre Avant l'oubli, et pour très schématiquement résumer le propos de ce film de fiction autour de la guerre d'Algérie, on peut dire que ça se passe à Marseille en 1957, que ça retrace bien entendu la vie quotidienne des travailleurs immigrés algériens pendant la période très importante et brûlante de la guerre d'Algérie. Et puis dans cet affrontement existe un autre affrontement qui est montré à l'écran, qui est l'affrontement entre militants nationalistes, c'est-à-dire les militants du FLN et les militants du MNA, le MNA, le mouvement national algérien, qui avait été fondé par Messali Hadj, le pionnier du nationalisme algérien, qui avait refusé de rejoindre le FLN, et ça a provoqué des affrontements extrêmement violents en France, pratiquement de 1956 jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Alors le mérite de ce film, bien sûr, est d'avoir évoqué, bien entendu, à la fois cette question coloniale vécue en situation d'immigration, et puis aussi de montrer cet affrontement qui existe entre les militants du FLN et les militants du MNA. Alors Augustin Burger, c'est votre premier film, je crois. Alors pourquoi un film sur la guerre d'Algérie? Il n'y a pas beaucoup de films qui sortent sur la guerre d'Algérie. Augustin Burger.
Oui, c'est un premier film, c'est mon premier long métrage, et en fait ça ne pouvait pas être autrement qu'un film sur la guerre d'Algérie, puisque j'ai un lien assez fort avec ce pays. J'y suis né et j'ai toujours entendu parler à la maison de la guerre d'Algérie. Donc ça, voilà, c'est des conversations quasiment quotidiennes, issues donc de familles pieds noirs. Donc forcément, j'ai voulu ensuite, je me suis beaucoup penché sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Et puis, naturellement, c'est venu l'écriture d'un premier long. Il fallait absolument que je parle de ça. Pas en Algérie, c'est-à-dire ça se situe pas là-bas, ça se situe en France. Donc j'ai voulu prendre des distances avec mon passé, et j'ai essayé de voir cette période à travers les yeux d'une Française, elle-même d'origine espagnole, et qui va donc tomber amoureuse en 57 à Marseille. Elle travaille dans une savonnerie, elle va être contacté par un militant combattant du FLN, et ils vont vivre ensemble une histoire d'amour,
une histoire d'amour
et politique.
Et politique tragique. D'engagement aussi.
Voilà.
Alors Amougraya, vous avez aussi un rapport bien sûr important avec l'histoire de l'Algérie, du nationalisme algérien, puisque je crois que votre grand-père était engagé dans une des premières grandes organisations nationalistes algériennes, c'est-à-dire l'Étoile Nord-Africaine, puisqu'il est membre fondateur, de l'Étoile Nord-Africaine. Amougraya.
Oui, il était donc un des membres fondateurs de l'Étoile Nord-Africaine, et sur la longueur de l'histoire, à la fin, il est devenu FLN, et il avait des responsabilités, dirons-nous, importantes sur la région Paris. Et paradoxalement, ce qui est peut-être même pas un paradoxe, c'est que durant toute cette période, il a fait plusieurs guerres pour la France quand même. Et l'un visiblement n'empêchait pas l'autre. De toute façon, ils étaient français.
Pour pas oublier que Messali, par exemple, qui a été le fondateur, un des grands pionniers de l'Étoile Nord-Africaine, avait fait la Première Guerre mondiale. C'était un moment très important de conscientisation politique. Amougraya.
Ouais, absolument. Donc c'était un. En fait, ils avaient. Ce que je me rappelle de ce que réclamait l'Étoile Nord-Africaine dans les tout débuts, en fait, c'était. Vous me direz si je me trompe, mais c'était l'égalité des droits, de la médecine, de l'enseignement.
Ça, c'était Ferhat Abbas. L'Étoile Nord-Africaine, c'était surtout l'indépendance. Hein. C'est-à-dire, 1926, c'était des indépendantistes. Ils voulaient surtout la célébration.
Il n'y avait pas de mouvement armé, de déclenchement.
Non, non, non.
C'est ça, je veux dire, c'est
venu beaucoup
plus tard.
C'est venu beaucoup plus tard, après Sétif, après 45. Oui,
donc, au départ, c'était quand même axé sur des choses à la fois...
très politiques.
Oui, mais manger à sa faim, pouvoir emmener ses enfants à l'hôpital, les emmener à l'école, c'est pas politique.
Ce qui était contradictoire avec la situation coloniale, donc en ce sens que c'était très très politique, bien entendu. Alors, rapidement, donc ce film, donc vous avez fait ce film donc avec Augustin Burger, est-ce que, disons, cette question de l'affrontement entre le FLN et le MNA, c'est quelque chose qui a traversé votre histoire personnelle? Est-ce que faire ce film, ça a été quelque chose d'important pour vous? Augustin Burger ou Amougraya, c'est comme vous voulez.
Oh bah, à mon niveau, oui, c'était important parce que ça me renvoyait à ma petite enfance. défense. Et donc c'était comme ça un retour en... Et en même temps, je trouve ça assez présent, puisque c'est une histoire occultée ou pratiquement dans la mémoire française. Donc c'est même d'actualité. La preuve, c'est que il y a des sujets qui sont encore tabous. Il suffit d'écouter les dirigeants français ou algériens pour s'en rendre compte. Donc bien sûr, c'était important.
Alors on marque une seconde pause de musicale et on se retrouve ensuite pour parler du film d'Augustin Bourget avec aussi Abou Kraya. Toujours sur France Culture et sur Beurre FM pour cette émission Bouge dans ta tête. Nous sommes avec Augustin Bourget et Abou Kraya pour le film Avant l'oubli, un film sur la guerre d'Algérie qui donc raconte une histoire de l'année qui s'est déroulée dans l'année 1957, donc à Marseille. Augustin Bourget, ce film, il raconte une histoire, certes celle de la guerre d'Algérie, mais c'est aussi une histoire qui a des résonances dans le présent, dans l'actualité.
Oui, quand j'écrivais, puis quand je suis rentré, quand j'ai un petit peu fouillé cette période, notamment ces luttes internes nationalistes, tout à coup je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement une sorte de guerre dans la guerre, un affrontement dans les différents courants nationalistes, et s'est posé la question du pouvoir. Et donc j'avais le sentiment de toucher quelque chose de très douloureux. J'avais aussi le sentiment que peut-être le destin de l'Algérie moderne, c'est un peu politique avec l'instauration du parti unique en 62 et l'absence de démocratie, de pratique de la démocratie, ça se trouvait à ce moment-là. Ça se trouvait là dans ces questions d'affrontement entre nationalistes, parce qu'il y a dans le film des affrontements entre MNA et FLN, mais il y a aussi à l'intérieur du FLN des contradictions. On sent des courants contradictoires qui s'affrontent aussi.
En particulier l'anti-intellectualisme qui existe à l'intérieur du FLN.
Absolument. Et on voit des hommes du congrès de la Soumam, et puis on voit des gens qui le refusent à l'intérieur et qui s'affrontent et qui s'affrontent violemment. Mmh. Et donc j'avais, en ce sens que le film est extrêmement, je pense, contemporain. Il a des résonances contemporaines, et je pense que c'est pas seulement localisé à 57, une petite histoire à Marseille.
Abou Kraya, sur la résonance de ce film, c'est la résonance possible de ce film sur le présent, sur l'actualité.
C'est toujours pas terminé. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression qu'il y a des faits et une époque historique qui s'est arrêtée, mais la résultante et les conséquences ne le sont toujours pas. Et on continue. Et je pense que la révolution n'est pas finie, ou alors en tout cas, il faudra enlever le R et essayer d'accéder à une évolution, quoi. Mais c'est une autre discussion.
Ah, c'est une discussion immense. C'est la révolution, celle de la révolution confisquée, qui était le titre d'ailleurs d'un ouvrage de Ferrat Tabas, qui était paru.
Qui a servi de modèle. sensiblement de modèle au personnage d'Ali Rejala, le héros du film.
Voilà, c'est pour ça que je mentionnais aussi, bien sûr, ce personnage de Ferhat Abbas. Ben, merci beaucoup, Augustin Burger. Puis on souhaite que les gens aillent voir votre film, donc avant l'oubli, parce qu'il faut signaler, bien sûr, que les films sur la guerre d'Algérie sont rares et que la mémoire de la guerre d'Algérie revient en l'absence de fiction, en l'absence de grande fiction, en l'absence des images, ce qui est donc pour ça qu'il faut aller quand même visualiser un petit peu cette histoire de la guerre d'Algérie. Alors, on va rester dans le monde de l'image et du cinéma en écoutant la voix d'André Dusselier qui va donc nous présenter un film. C'est la voix d'André Dusselier qui est celle d'un documentaire qui va être diffusé prochainement sur France 3.
Première, deuxième, troisième génération, Français issus de, immigrés, enfants et petits-enfants venus des anciennes colonies françaises ou des dom-toms, tous aujourd'hui se réclament d'une histoire et d'une mémoire. Ils sont désormais 9 millions en France. Et contraints d'endosser d'incontournables stéréotypes, ils se retrouvent systématiquement enfermés dans des vieux clichés. Ceux des trois couleurs des indigènes de l'Empire colonial français. Le noir, le jaune et le brun. Des stéréotypes fabriqués de toutes pièces et fixés dès la fin du 19e siècle par le cinématographe. Il y a l'Africain. Toujours perçu comme un corps noir, au rythme dans la peau, et bon enfant. L'Asiatique, mystérieux et travailleur derrière sa couleur jaune et son regard impénétrable. Et l'Arabe, le brun, montré comme fanatique et dangereux, en revendication permanente. Fantasme collectif, clichés paternalistes et racistes, exploitation politique ou médiatique, ces stéréotypes ont été fabriqués et largement nourris par notre imaginaire. C'est cette histoire qui va vous être racontée. L'histoire de la construction de ce regard et de ses contradictions qui se sont développées tout au long du siècle au cœur de Paris, à la fois ville des libertés et métropole du second empire colonial du monde.
C'est à la voix d'André Dusselier qui ouvre le film qui sera diffusé ce mardi, le mardi 28 juin, sur France 3. C'est un film de Pascal Blanchard et Éric Dereau, qui étaient les co-auteurs de la trilogie Le Paris Noir, avec Gilles Manceron, Le Paris Asie et Le Paris Arabe, avec Driss Eliazami. Et qui, ce film, donc, de documentaire qui porte pour titre Paris Couleur, qui est un documentaire de 52 minutes d'archives absolument inédites, des archives absolument extraordinaires, en particulier tout le démarrage du documentaire qui nous montre les expositions, les grandes expositions universelles à Paris, notamment celle de 1900, de 1896, où l'on voit véritablement des os humains, tout simplement, qui sont proposés au public parisien, qui lance comme ça des pièces en direction des indigènes qui vont les ramasser. Enfin, ce sont des images très très saisissantes. Donc 52 minutes d'archives inédites, c'est l'histoire d'une triple présence des Outre-mer dans la capitale qui est proposée. Donc c'est un film qui sera diffusé donc mardi soir, le 28 juin, sur France 3. C'était Bouge dans ta tête, une émission proposée et présentée par Benjamin Stora, équipe de réalisation Hélène Daude, Élise Le, Catherine Donnet, Seram Boutata et Camille Jou.
retrouverez les informations sur cette émission sur notre site internet www.franceculture.com puis Bouge dans ta tête. Vous pouvez également bien sûr nous écrire par courriel à bougedantatete@radiofrance.com ou par courrier Bouge dans ta tête, pièce 6124, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy dans le 16e. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Michel Wieworka, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et qui dirige le CADIS, auteur de La tentation antisémite, paru chez Robert Laffont, Vincent Gesser, auteur de La nouvelle islamophobie, paru aux éditions La Découverte, Gilles Manseron, historien, rédacteur en chef de la revue de la Ligue des droits de l'homme, Hommes et Liberté, René Monza, journaliste qui travaille depuis très longtemps sur les extrêmes droites en France, pour parler dans cette émission de Bouge dans ta tête, pour évoquer donc les nouveaux racismes contemporains. Il est maintenant 18h sur France Culture, l'heure de rejoindre Aline Payet pour Jusqu'à la Lune et retour.